Bordeaux-Nice. N'arrive pas à faire arriver à l'heure. Bon, alors, je vais donc vous parler d'un sujet qui était très tendance il y a 8 jours. Mais c'est devenu, on aurait pu parler ce soir, de la réforme du Code du travail. Je pense qu'il y a une tactique, une technique qui était arrivée à un point sophistiqué chez Tony Blair. Le storytelling consistait à occuper les médias, tous, pas quelques-uns, à part des sujets dont on changeait souvent et qui permettent d'occuper ainsi la totalité de l'opinion. Alors on a passé quand même deux mois sur des sujets que nous avons évoqués ce soir qui sont extrêmement graves. Enfin, je ne veux pas jouer sur... Enfin, je suis déjà inquiet, mais je ne veux pas aggraver l'inquiétude, mais quand même, vous allez voir, c'est du lourd, comme on dit dans les tontons flingueurs, hein, ce qui se passe avec la révision de la Constitution. Mais là, on est passé à autre chose, et si vous observez, si vous lisez, bon, voilà, les grands titres, hein, nationaux, on ne parle plus du tout de ce qui est pourtant en train de se mettre en place. Hein, le Parlement va discuter dans quelques jours, je crois que c'était mercredi, puis c'est un peu modifier le calendrier, mais de la suite de l'état d'urgence, de la révision du code de procédure pénale, je vais vous en parler, c'est très très problématique. Bref, voilà. Alors, je crois qu'il y a trois points sur cette révision. D'abord, c'est une révision inutile. Mais elle est monstrueuse, c'est-à-dire qu'elle instaure pour la première fois depuis... Bon, on pourrait remonter à 1803, parce que depuis 1803, on n'avait jamais abordé dans une constitution la question de la nationalité. C'est le Parlement, qui a, même sous les monarchies constitutionnelles, hein, sauf sous le Premier Empire, mais sinon les constitutions, c'est donner au législateur le soin de définir le droit de nationalité. Et en France, ça pouvait même remonter à l'ancien régime. C'est le droit du sol qui l'emportait régulièrement dans les votes du législateur, sauf évidemment, mais il n'y avait plus de législateur sous Vichy. Et pratique, il faut que Vichy devienne obscène, mais il faudrait quand même appeler un chat un chat, c'est-à-dire que si on révise à ce point le droit fondamental, la loi fondamentale, c'est qu'il y a bien un problème. Donc c'est une révision monstrueuse, bien que inutile, je vous dirai en deux mots pourquoi. Puis, c'est une révision dangereuse, parce qu'elle constitutionnalise l'état d'urgence et qu'elle crée ainsi un état d'exception, je vous dirai pourquoi et comment, sans exagérer les termes, hein, vous verrez. Et enfin, c'est une révision en trompe-l'œil, car elle cache la réforme du Code de procédure pénale, qui est une réforme, qui est un texte d'ailleurs, comme dirait beaucoup d'autres, aussi complexe que le Code du travail, et aussi épais d'ailleurs. Mais qui est en général, même pour les étudiants en droit, c'est en deuxième ou troisième année qu'on l'étudie, donc c'est de l'expertise si vous voulez. Mais là, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'articles dans la presse, or se passent là des innovations et des mutations qui sont vraiment très problématiques et qui nous font aller vers un état de police. Alors ces termes que je vous dis là, c'est des termes militants, je les ai utilisés dans mon blog sur Mediapart dès le lendemain des attentats. Sur l'état d'urgence, sur la nationalité et autres. À l'époque, peu de députés, ils ont été six valeureux à refuser ces oukases que le gouvernement leur a infligé, mais les journalistes aussi, même des collègues juristes, étaient très précautionneux, se demandant si finalement il ne valait pas mieux constitutionnaliser qu'autre chose. Mon opinion était vraiment inverse, c'est pas que je sois un génie des Carpates dans la matière juridique, mais quand même, ça prouve que de la discussion naît la lumière. Il a fallu deux mois pour qu'il y en un accord assez général aujourd'hui de l'accord des communautés, je n'aime pas trop ce terme, mais des communautés de juristes, d'éditorialistes, enfin bon, qui trouvent que on est en train de délirer, quoi, c'est-à-dire de s'embringuer dans une affaire qui ne le mérite pas par rapport au but poursuivi, hein, lutter contre le terrorisme, bien sûr, mais les moyens utilisés là sont des diversions. Alors le premier point, la décharge de nationalité, pourquoi nous irions vers un état d'exception. Je viens de vous le dire, de vous le rappeler, depuis 1803, jamais on a constitutionnalisé la nationalité. C'est déjà un symptôme. Mais on n'a jamais Et alors là, depuis 1893, on n'a jamais établi la moindre distinction entre l'état des personnes. Qui est français, tout le monde est à égalité. Il n'y a jamais eu de distinction introduite dans la Constitution. L'article 1, vous le connaissez, il est célèbre, la France est une république qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Dès que vous entrez dans la discussion, qui a été qui a frisé le ridicule parfois, du côté du gouvernement, qui a essayé de trouver des formules pour faire passer soft, comme on dit, des mesures qui est hard, qui est la déchéance de nationalité pour les binationaux, pour tout le monde, etc. Alors c'est pour tout le monde. Là, c'est le grand progrès, ça sera pour tout le monde. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on inscrit par défaut dans la Constitution, en renvoyant à la loi, ce qui est encore plus aléatoire, on inscrit par défaut le fait qu'il y aura une distinction entre les nationaux purs et simples, si je puis dire, et les binationaux. Donc quand même, le nombre, les modes d'acquisition de la nationalité sont des signes d'intégration. Qu'on l'ait acquis de manière passive, la nationalité française, en étant un fils de deuxième, première génération d'immigrés, ou qu'on l'ait acquise par volonté de s'intégrer en demandant la naturalisation, c'est une forme d'intégration, et qui faisait d'ailleurs le prestige de la France. C'est cela que l'on casse. Et même, alors, c'est hypocrite, consiste à dire, ah, il n'y aura pas, vous allez voter, dit-on aux députés, dit Valls, aux députés qui se réuniraient en congrès, enfin, on verra si on arrive, mais enfin, vous allez voter quelque chose, il n'y aura pas binational ou national. Ce sera pour tout le monde. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'on renvoie à une loi d'application dont on ne sait rien, et où il y aura néanmoins, effectivement, la déchéance pour ce qui, je reviendrai sur d'autres problèmes, à savoir la suspicion que cela signifie, où on essaiera de détecter ce que sont les binationaux qui mériteraient ainsi d'être déchus de leur qualité de citoyen français. Il y a, alors, ça ne sert à rien, pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu dans le droit pénal, comme dans le droit civil, français, des peines infamantes. Par exemple, l'article 131 du Code pénal prévoit des déchéances de droit civique. C'est prévu. L'article 131 pardon, de droit civique, c'est si on est attaché à la nationalité, est-ce que vous pensez que les terroristes potentiels, putatifs ou passés, sont attachés à la nationalité française? C'est de la folie furieuse. Ils tuent sur notre territoire et ils voudraient être français. C'est du délire total, c'est incohérent. Bon. Mais ceux qui seraient dans ce champ, l'article du 131 du Code pénal prévoit qu'ils perdent droit civique. Ce qui est effectivement, ce qui a été le cas, il y a une discussion là-dessus aussi assez évanescente au Parlement au mois de décembre, de janvier, sur l'indignité nationale. Qui a été une mesure spécifique appliquée en 1945 pour les Français qui avaient collaboré et où ils étaient frappés d'indignité nationale et perdaient pendant un certain temps leurs droits civiques. Bon, donc on a connu ça, ça existe, ça correspondait à des situations, c'est un principe de relativité, si vous voulez, de proportionnalité, aux situations connues. Mais il y a le Code civil! Il y a le Code civil, il y a deux articles dans le Code civil, tel qu'il est là, il n'y a pas à le toucher. L'article 23.8 qui permet de retirer la nationalité française à celui, je cite parce que ça vaut la peine, qui occupe un emploi dans une armée étrangère ou lui apporte son concours. C'est Daesh que je sache. Savoir si Daesh est un État ou pas un État, c'est pas le débat. Mais Daesh est une armée. Terroriste, oui. Ceux que nous poursuivons là, que nous voulons sanctionner, sont ceux qui prêtent leur concours, c'est l'article du Code civil, 23.8, à Daesh. Eh bien, on le retire de la société française. Où est le problème? Pour ceux qu'on attrape, qui veulent revenir ou je ne sais pas quoi, une fois qu'on les a saisis, c'est un autre problème. Parce que pour ça, l'inefficacité des services de renseignement français est devenue aussi célèbre et inversement proportionnelle à ce qu'est l'inefficacité des mesures proposées pour la Constitution. Donc, il y a encore l'article 25 du Code civil, je ne vais pas faire du cours de droit trop technique, mais quand même, qui prévoit la déchéance de la nationalité française, pour celui qui a acquis la nationalité française et qui est condamné pour un crime ou un délit qui constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est dans le Code civil. Alors, ça renvoie à la loi qu'on dit Guigou, mais enfin, la pauvre, elle, pour le coup, n'y est pour rien, puisque en 1998, Guigou, ministre de la Justice, garde des Sceaux, reprend dans un bon sens la loi Pasqua 93, qui avait écorné le droit du sol, et renforce, si vous voulez, le droit du sol. Bon, je passe sur ces détails, mais reste dans ce texte de 98, la dernière loi qui avait formulé ce texte, subsiste la suppression de la nationalité française pour l'acquisition par mariage. Parce qu'il y avait des disputes. Ça dépend des saisons. Hein. À l'époque, les mariages blancs, c'était un débat polémique sur, il y avait des faux mariages, des mariages blancs. Donc, on a laissé le mariage blanc pour, justement, frapper ce qui serait, dont on prouverait qu'ils ont fait un faux mariage, un mariage blanc, de la nationalité qu'ils auraient acquise de manière fraudée. C'est tout. Mais ça y est! Alors, si on veut discuter sur comment on peut étendre de manière le mariage blanc et la déchéance, c'est cohérent, il y a un rapport. On peut être contre, enfin bref, mais la loi Guigou était une loi qui, par sur d'autres sujets, confortait le droit du sol. Donc, on pourrait aujourd'hui, même d'un point de vue de gauche, d'un point de vue humaniste, discuter, je n'ai pas de proposition, mais enfin, sur comment appliquer ces peines-là à des terroristes, bien que je pense toujours, hein, à chaque fois je le redirai inlassablement, que c'est inefficace, c'est pas le sujet. Un étranger qui se marie en blanc, disons en France, pour devenir français, pour un tas de raisons, et il veut devenir français. Le terroriste, il s'en fout complètement, enfin complètement. Bref, donc vous le voyez, il y a. C'est inefficace, mais on va avoir. Si cela aboutit au Congrès et à la révision de la Constitution, on va avoir une ouverture extensible, que le juge pourra toujours étendre la déchéance, alors à tout le monde, pas que les binationaux, bien que, comme c'est incohérent, le Premier ministre a dit « Ah ben la France, qui n'avait fait que signer la Convention de 1961 de l'ONU sur la patridie, on va la ratifier. On n'a pas encore fini. On va devoir la ratifier. Il faut un vote du Parlement pour la ratifier. On va ratifier cette loi, et donc ça veut dire qu'on va devoir agencer un système qui n'existe pas. Hein, parce que depuis 1945, ou plutôt 48, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à une nationalité s'est inscrit dans cette déclaration pour tout individu est devenu un droit fondamental. Donc, vous pouvez avoir des arrangements bricolés dans des recoins de déchéance, vous ne pouvez pas déclarer quelqu'un apatride. C'est simple à comprendre quand même, ça, même pour Manuel Valls. Bon. Eh bien non. On va trouver des formules pour trouver des catégories, je ne sais trop lesquelles, personne ne sait lesquelles. Il n'y a pas un juriste proche du gouvernement qui puisse vous l'expliquer. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment ça s'est analysé le débat. Bref, donc c'est une mesure monstrueuse, hein, je le redis, je le maintiens. Une constitution est faite, hein, rappelons-le, parce qu'on en est envoyé des fondamentaux, une constitution est faite pour garantir les droits de l'homme, d'une part, et déterminer la séparation des pouvoirs. Depuis 1789, hein, la déclaration des droits, c'est ça. Un peuple qui n'a pas de constitution n'est pas un peuple libre, et qu'est-ce que c'est ? C'est 89, ce n'était pas les droits économiques et sociaux. C'est faire en sorte que les individus, donc les citoyens, et les individus, les personnes, soient garantis dans leurs droits personnels, hein, collectifs, et que l'on organise ainsi la séparation des pouvoirs, où le pouvoir arrête le pouvoir. C'est ça la Constitution. Ce n'est pas promouvoir des catégories, même subtilement distinguées, de citoyens qui auraient la pleine nationalité, ou qui ne l'auraient pas parce qu'ils sont binationaux, ou qu'ils auraient commis des crimes ou des délits, quelle que soit la gravité des crimes ou des délits. À propos de délit, je vous signale que dans ce faux débat, le gouvernement a proposé qu'un simple délit constituant une atteinte grave à la vie de la nation, je cite hein, le texte, soit retenu comme le motif que la loi devra organiser de la déchéance de nationalité. Le délit, c'est la catégorie la plus large qui soit en droit pénal, tel qu'il existe. Bon. Ça va jusqu'au délit d'opinion. Je vous fais remarquer, ça va jusqu'au délit d'opinion. Alors, vous dites, quand même, c'est pas Hollande, ce bon pépère de la nation qui va... Non, mais si, dans un an et quelques mois, Marine Le Pen était élue présidente de la République... Mais quel cadeau fait-on au Front National extrême droite? Je ne vais pas ouvrir le débat sur ce sujet, mais un cadeau invraisemblable, alors qu'on affole les... Enfin, on s'affole, on affole les gens, enfin, peu importe. Souvenez-vous du débat, il n'y a pas si longtemps, après les régionales. Hein, il fallait faire le Front Républicain, unique, commun, etc. Le danger du Front National dans les régions a été jugulé, vous êtes bien placé pour le savoir ici, par des blocs de résistance Front National. On a quand même des... scénarios, des indicateurs montrant que Marine Le Pen sera très probablement au deuxième tour, et on a déjà des gens, des politistes pourtant très prudents qui disent qu'il peut y avoir un accident total. L'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir en 2017 n'est pas aussi invraisemblable et surprenant que ce qu'était son père au deuxième tour en 2002. Alors, comment peut-on... Marine Le Pen, je vous signale, c'est un autre sujet, c'est pas le sujet de ce soir, mais enfin, s'il y a aujourd'hui quelqu'un qui est une avocate, même une championne de la 5e République, on ne s'en aperçoit pas de cela. C'est Marine Le Pen, c'est elle qui prend tout. Évidemment, l'article 16, on le laisse là. Pourquoi on ne supprime pas à ce propos l'article 16 qui permet d'avoir une dictature, on la dénonce, la gauche l'a dénoncé depuis 40 ans, même 50 ans. L'article 16 est là, et Marine Le Pen explique qu'elle ne veut rien changer à la Constitution. Sinon, on peut être limité les pouvoirs du Conseil constitutionnel. Ah, oui, on va voir pourquoi. Elle n'a pas tort. Ce sera la seule résistance que nous aurons, si jamais cette catastrophe arrivait, et quand même on aura ouvert la voie à une révision des droits fondamentaux qui est un véritable scandale. Que la gauche fasse ça, c'est absolument ahurissant. Et c'est stupéfiant. Bon. Bref, donc je m'en tiens à ça. Avec un dernier mot quand même, c'est que ces traces de déchéance qui sont dans nos textes de droit civil et de droit pénal, ils sont d'une inefficacité à eux-mêmes très relative, puisque depuis un quart de siècle, depuis 25 ans, il n'y a eu aucune déchéance, il y a eu 20 cas en 25 ans. Où on a appliqué les dispositions des articles que je vous ai cités. 20 cas. Aucune entre 2007 et 2014, et 6 depuis 2014. Voilà. Donc ça prouve que c'est infinitésimal, parce que dans l'état actuel du droit existant, et le droit que nous aurons, qui serait modifié là, ne va pas améliorer l'efficacité de ce système. C'est ça qui était invraisemblable. Quoi. C'est invraisemblable. C'est sur les principes, les symboles, mais qui touchent quand même à la conception qu'on a de la nation. Bon, donc c'est le premier élément, je crois, des champs de nationalité. Le deuxième, c'est la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Et là, ce qui me semble le plus problématique et grave, c'est l'ouverture de notre droit vers un état de suspicion. Je vais vous expliquer ça rapidement, mais ce n'est pas une formule en l'air. Il s'agit de quoi? Il s'agit donc de reprendre la loi qui est en vigueur, le Parlement il y a quelques jours l'a prolongée jusqu'au 28 mai. C'est un petit problème, je vous dirai pourquoi, mais enfin bref, on n'en est plus avec que celui-là. Mais c'est la loi donc, du 3 avril 1955 qui avait été adoptée au début de la guerre d'Algérie. Par Garfort, hein, pas par Guimolet, c'était avant les plus importants de Guimolet, et justement, ça partait, si vous voulez, dans le contexte de l'époque, d'un bon sentiment, puisque Garfort essayait par là de conserver la maîtrise des questions de police au moins, et même militaire, d'état de siège, d'état d'urgence, etc., au pouvoir civil, alors que Guimolet va donner les pouvoirs à l'armée. Bien. La torture qui va s'en suivre sera la conséquence de cela. Donc, c'est ça la loi de 55 sur l'état d'urgence. Donc, je veux dire, il y a des dispositions qui ne sont pas, on peut les discuter, hein, je ne les justifie pas là, mais qui tenaient compte d'un état de guerre, qu'on ne voulait pas avouer comme tel, hein, la guerre d'Algérie, mais qui était bel et bien une guerre. bon, peut-être plus classique, je ne sais pas, bien que, hein, la guerre de guérilla qui était la guerre du FLN, c'était une guerre aussi étrange que Daesh aujourd'hui. Puis on dit, ah, c'est nouveau, il faut s'adapter, bon, oui, bon, d'accord. Or, ce qui se passe avec cette constitutionnalisation de l'état d'urgence, c'est que, avec la loi du 20 novembre 2015 qui a été reconduite là, on a régressé, on a modifié le droit tel qu'adopté en 1955 dans un mauvais sens. Je prends quelques exemples. D'abord, c'est plus flou, les formules sont plus floues que jamais. C'est-à-dire que l'état d'urgence est décrété dans la loi de 2015, du 20 novembre 2015, en cas de péril imminent, suscitant ou résultant d'atteinte grave à l'ordre public. Péril imminent, ça a déjà été utilisé par Chirac en 2005 pour les banlieues. C'était que pour les banlieues, pas pour l'ensemble du territoire. Il y avait un péril imminent, il y avait des voitures qui flambaient, enfin vous avez le souvenir de ça peut-être. Mais c'était déjà une discussion qui avait eu lieu. Hein. J'avais parti d'une cohorte de 150 juristes qui avaient saisi le Conseil d'État à l'époque, enfin bref, pour dire qu'est-ce que ça signifie. Où sont la définition des catégories que l'on met en œuvre. Le péril imminent. C'est une appréciation du pouvoir politique, mais du coup qui a des conséquences juridiques considérables. Ensuite, il y a la durée. La durée dans la loi de 55, elle est très limitée. Enfin, elle est très délimitée. C'est-à-dire que on peut prévoir une durée fixe, mais on interdisait son renouvellement. Là, non seulement on a prorogé la loi jusqu'au 26 mai, mais vous avez entendu ce propos à Londres de Valls disant qu'elle resterait en vigueur, on la prolongerait, on la reconduirait jusqu'à l'extinction de Daesh. Alors ça, moi je veux bien qu'on veuille affoler le monde, mais enfin l'extinction de Daesh, c'est une affaire où il y a 68 États coalisés, théoriquement, hein, contre Daesh. L'extinction de Daesh, c'est pas pour la 2017. Hein. Bien. Et ça commence aujourd'hui en Libye. Enfin, il y a un problème là d'absence de rapport, mais notionnel, entre ce qu'est l'ennemi que l'on veut réduire avec cet état d'urgence et puis les moyens qu'on se donne. Ce n'était pas le cas dans la loi 55, ça l'est dans la nouvelle loi. Troisième élément, il n'y a pas dans la loi que nous avons été votée, il n'y a pas de contrôle ni de la durée, ni de l'application de la loi. Certains parlementaires ont voulu qu'il y ait, qu'on mentionne, que par exemple, comme pour l'article 16, le Parlement serait réuni de plein droit. Ou qu'une commission, comme Urvoas avait mis en place au mois de décembre, avec le président de la commission des lois, aujourd'hui ministre de la Justice, qu'une commission parlementaire se réunisse de plein droit pour suivre la façon dont est appliqué l'état d'urgence, qui n'est pas un petit problème, j'en donnerai quelques indications. Les abus, ce n'est pas des bavures. Les abus se sont multipliés. Bon, contrôler cela, qui va les contrôler? Je vais y venir, c'est l'administration aujourd'hui qui fait son propre autocontrôle, et il n'y a pas dans la loi de contrôleur indépendant de l'application concrète au jour le jour de l'état d'urgence avec toutes les mesures qu'il contient, les perquisitions abusives, enfin il y a des cas qui sont absolument scandaleux, qui se sont multipliés depuis le mois de novembre et qui posent un problème de là aussi proportionnalité entre les moyens juridiques que l'on met dans la loi et puis l'application de cette loi. Enfin, ça c'est le plus gros, le plus important élément, c'est l'aggravation de la suspicion. Ça tient à un changement de mot, là encore. La loi 55 disait que c'est l'activité, je dis bien l'activité, d'individus, alors suspectés, dangereux, etc., bon, mais l'activité, il fait quelque chose, qui justifiait le déclenchement des mesures d'état prises dans l'état d'urgence. Eh bien, ça a disparu, l'activité, dans la loi du 20 novembre 2015, c'est le comportement des individus qui justifie l'application des mesures de l'état d'urgence. Là, il y a une inversion fondamentale du droit français qui était basée jusqu'ici, qui est basée, on peut dire encore, si on n'est pas trop pessimiste, sur une justice accusatoire fondée sur des faits, sur des preuves matérielles. Voilà la tradition du droit français qui est la meilleure, hein, par rapport au droit anglo-saxon, par exemple. Et on passe à une justice prédictive, qui est fondée sur la suspicion. Sur la suspicion, sur de simples pronostics. On prédit à l'avance des comportements humains. On dit cet individu, et on a déjà des exemples. Vous êtes en relation, il y a des trucs qu'on vit dans la presse, mais ça fait peur. Hein. Un qui a été soumis encore, il fait un recours là. Il y en a tous les jours, qui est soumis à une. Un contrôle 4 fois par jour, etc. C'est très pesant, qui a perdu son travail, parce qu'il était en relation amicale avec quelqu'un qui est parti en Syrie. Non, il explique, moi j'ai connu, je l'ai connu au lycée, à l'école, enfin, bref, je l'ai connu depuis 5-6 ans, c'était un copain, moi je n'ai jamais pratiqué, je ne suis pas du tout ni sur internet, il n'y a aucune trace matérielle disant que ce monsieur est dangereux et va partir en Syrie. Mais il était en rapport avec un qui est parti, donc il est suspecté et on l'applique, on le met aux arrêts, quoi. Non, c'est des choses quand même qui sont assez bouleversantes. Moi, je ne sais pas comment on peut le dire autrement, parce que ça veut dire qu'il y a des délits d'opinion. Les délits d'opinion sont aujourd'hui, peuvent être aujourd'hui et demain encore plus, je ne refais pas le scénario que j'évoquais tout à l'heure, des délits sur lesquels se fondera l'administration pour pouvoir appliquer les mesures d'état d'urgence. Donc on a un état d'exception qui se met en place, un état d'exception va pouvoir générer, si vous voulez, des mesures dérogatoires au droit commun ou au droit positif. Par exemple, la Cour de sûreté de l'État, que vous avez peut-être en mémoire, hein, en 1963, qui avait été créée pour juger les partisans de l'Algérie française, au début de la Ve République, a été maintenue pour juger les manifestants de 68, de mai 68. Bon, elle a été supprimée en 81, ça a été une des premières mesures de Badinter, qui était radicalement contre, c'était une juridiction d'exception. Chemin faisant, avec tant d'exceptions par rapport aux droits fondamentaux des gens, des personnes, vous pouvez très bien créer des tribunaux d'exception et faire ainsi un système qui est un état d'exception. C'était ce qu'avait quand même fait qualifier par la gauche en 1958-65. L'état de c'était de fascisme, il avait tort, mais en fait, c'était que malgré De Gaulle, c'était un état dangereux. Nous sommes en train de mettre en place les fondements d'un état dangereux, un état d'exception. D'ailleurs, Urvoas, président de la commission des lois, a rendu un rapport le 16 décembre sur l'application de la loi. Car il a mis en place une commission parlementaire qui a essayé d'enquêter, demander des renseignements au préfet sur les mesures prises. Il y a eu 61 cas d'abus, c'est pas moi qui parle, c'est Urvoas, c'est la commission de la justice, 61 cas d'abus en un mois, perquisition, assignation à résidence, recensés par la commission parlementaire. Et les cas d'abus, alors maintenant, bon, on en parlera tout à l'heure, je ne vais pas trop long, mais la Commission nationale de consultative droits de l'homme, mais aussi le défenseur des droits, Jacques Toubon, il y a une commission aussi, une commission avec des juristes qui recense les abus que les gens subissent sans avoir beaucoup les moyens de faire des recours. Parce que je vais y venir, c'est l'administration qui fait sa propre police, sa propre justice. Donc vous avez un dérapage là, avec une bavure, c'est un cas, c'est deux cas, on peut tolérer trois bavures, je ne sais pas moi. Mais 61 cas de choses pas normales, où des enfants sont réveillés la nuit, on a enfoncé la porte, on leur met un flingue sous le nez, enfin quand même, c'est ça à Nice. Il y a des cas invraisemblables, qu'on tolère ça, c'est gravissime. Bon, je ne vois pas de précédent par rapport à ce qu'a été peut-être oui, l'OAS, le gars d'Algérie, mais pas 68. Bon, donc c'est le deuxième point. Le troisième, le dernier, c'est une révision de la Constitution qui est en trompe-l'œil, car elle cache la réforme du Code de procédure pénale. Et là, cette réforme ouvre la voie à l'état de police. Un état de police. Alors je ne dis pas état policier, c'est une formule qui était à la mode en 68, mais état de police, un terme que moi j'ai utilisé dans mon blog sur Mediapart, ça apparaissait, on m'a reproché à l'époque d'être trop radical, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, vous avez des magistrats, des syndicats de magistrats et d'avocats qui parlent d'état de police. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on peut en parler sans être excessif? D'abord, c'est la part la plus invisible des réformes. La décharge, on en a parlé à plus soif, c'était devenu lassant dans les journaux, il y avait des articles intéressants, souvent, mais il y en avait partout, qu'est-ce qu'être français, etc., sur la décharge de nationalité, pour un résultat, pour un objet, un résultat qui est infime. Cas d'urgence, il y a ce que je viens de dire. Mais le code de procédure pénale, c'est peu débattu. C'est peu débattu. Or, il est bel et bien en cours. L'Assemblée nationale, la commission des lois de l'Assemblée, le 17 février, vient de l'adopter, la loi, là-dessus. Et alors là, c'est une batterie, je vous assure, qui est impressionnante. Premier élément, mais ça, heureusement, le Conseil constitutionnel, il y a trois jours, l'a retoqué, déjà, pourquoi, un renforcement des pouvoirs de police dans les perquisitions. Jamais, jusqu'ici, la police, en tant que telle, n'avait eu les mains aussi libres pour aller jusqu'à la saisie chez vous des données de l'ordinateur ou d'un portable. Tout ce qui est électronique, même on y a les jeux vidéo, ça a été débattu, on en est là quand même. On en est là, parce que dans les jeux vidéo, il peut y avoir des jeux qui, d'ailleurs Daesh l'utilise hein, dans sa communication qui est assez moderne, qui est même très moderne. Donc l'idée, c'est que tout ce qui est électronique peut être saisi par la police au cours d'une perquisition, le matériel, mais aussi les données. Jusqu'ici, c'est une prérogative qui était réservée à la justice. Et je vous rappelle là, on y reviendra inlassablement, l'article 66 de la Constitution, qui dit que c'est la justice qui la garante des libertés individuelles, dans la sûreté des personnes. La justice, c'est pas le procureur de la République, hein, qui dépend du ministère de l'Intérieur. C'est le magistrat du siège qui est amené à instruire et à juger ensuite des faits qui amènent quelqu'un devant un tribunal. Alors, la seule condition pour mettre en œuvre ce pouvoir surpuissant de la police, jusqu'à y compris aux données informatiques, c'est qu'il existe, je cite, des raisons sérieuses de penser que cette saisie est nécessaire à la prévention des menaces. Alors, c'est la prévention des menaces, le terme nécessaire, qui définit, où ça commence, où ça finit? Un juge a des moyens d'évaluer. Cela. Mais la police, par définition, la police va pousser son pouvoir, va tout saisir. Elle va être amenée à tout emporter, le matériel et les données. Heureusement, c'est le premier espoir, je pense, qu'il va y avoir d'autres déboires quand même pour le gouvernement et pour le législateur, si jamais tout ça arrive à bon port, enfin, à mauvais port. Le Conseil constitutionnel qui a été saisi par la voie de la QPC, hein, vous savez, le nouveau système qui permet à n'importe quel requérant devant un tribunal quelconque de dire « Ah, stop, je veux avoir l'avis du Conseil constitutionnel sur le fait que ce que l'on m'oppose, là, comme droit positif, est conforme à la Constitution. » Bon, là, les droits de l'homme, qui avait intérêt à agir là-dessus, a saisi le Conseil constitutionnel sur ce point et sur d'autres, et le Conseil a censuré, le 19 février, c'est une décision très importante, parce qu'elle est très développée, elle a censuré cette disposition, donc sur un cas précis, hein, ce que je vous dis là, était prévu pour être dans la loi, dans le Code de procédure pénale. Mais déjà par avance, le Conseil l'a censuré, l'a rendu impossible. Et en plus, c'est pour ça que la décision est intéressante, parce qu'il y a souvent le Conseil procède comme cela, le Conseil constitutionnel, il donne des conseils aux législateurs pour la législation à venir. Et là, alors, il y a un catalogue de conseils, de recommandations, de prescriptions sur au législateur, hein, qui va devoir voter cette réforme, enfin devoir, qui va devoir discuter. Pour donner un cadre, je cite le Conseil, donner un cadre protecteur aux mesures d'intrusion dans la vie privée. Il n'est pas possible, d'après le Conseil, d'adopter les mesures, dont celles que je vous ai grainées rapidement là, qui sont une vraie batterie de mesures attentatoires à la vie privée. Il n'est pas possible, dit le Conseil, de les imaginer, comme il l'a censuré sur les informatiques, s'il n'y a pas un cadre protecteur de la vie privée qui aille avec. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est des mesures qui donnent l'avantage à la police, mais qui ne prend pas en compte le droit des personnes. Alors, autres mesures qui sont dans ce projet de loi, hein, qui a été quand même de tel quel, par l'Assemblée, la Commission des lois, le 17 février dernier, c'est l'extension des pouvoirs de police au cours d'une intervention. Si les policiers estiment qu'un autre lieu, non prévu dans le mandat de perquisition, si un autre lieu à proximité au plus loin mérite d'être perquisitionné, eh bien on y va. Ben, je ne sais pas si vous imaginez, si on faisant abstraction de terrorisme, parce que les terroristes en général, on a vu comment c'est passé hein, en novembre, ils sont partis, ils sont ailleurs, ils sont, enfin bref, bon, ils se sont fait sauter, enfin, tout ce qu'on voit. Tout ça est quand même ridicule par rapport à ce que l'on veut atteindre comme résultat. Appliquons-nous à nous-mêmes. Je ne veux pas vous affoler, mais ayant un état policier, alors là, illibéral, hein, que ce soit un gouvernement Front National, je ne sais trop qui d'autre, hein, on va rigoler. Ça va s'occuper à des gens qui ne penseront pas comme il faut. Ce sont des opinions. Ce ne sera pas impossible de l'appliquer à ça. Cela veut dire que, ça c'est totalement nouveau, la police toute seule peut retenir pendant 4 heures toutes les personnes présentes dans ce lieu ou ces lieux qu'elle aurait estimé nécessaire d'aller voir, d'aller visiter pour les perquisitionner. Même les mineurs. Même les mineurs. S'il y a là aussi, je cite, des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace. Si vous pouvez me définir ce que en droit signifie sérieux, raison sérieuse, le comportement constitue une menace. Très bien, mais pour l'instant c'est impossible. Il n'y a rien dans le texte, dans la loi, qui permet de le préciser, donc de fixer une barrière au pouvoir de la police. Autre innovation, si on peut dire, l'extension des pouvoirs de police aux fouilles de voitures, de bagages et au contrôle d'identité. À présent, si c'est censé avoir une pièce d'identité sur vous, ça c'est très français, hein, c'est pas en anglais, vraiment. Si vous l'avez. Sauf si vous avez commis, bien sûr, un délit, enfin, si vous avez cassé la figure à quelqu'un, je ne sais pas quoi. Désormais, ce sera possible en permanence à la seule demande des préfets et sur simple présomption d'infraction. Alors, il y a déjà le délit de sale gueule, hein, le délit de faciès, pardon. Pour ceux qui ne sont pas blancs, totalement sur leur peau, etc., qui constituent un vrai problème dans les banlieues, mais là, ce n'est pas que les banlieues. Si un policier estime que vous avez pu commettre une infraction, paf, on va pouvoir opérer ces fouilles et ces contrôles de manière totalement illimitée. Et ce sera par la police. Enfin, il n'y a pas enfin, dans ce contexte, aggravation ou facilitation de l'usage des armes. C'est un sujet permanent que l'autodéfense applique à la police, c'est prévu dans certains cas, avec des conditions. Là, on passe à l'irresponsabilité pénale lorsque l'usage d'une arme par un policier est, je cite, absolument nécessaire pour mettre hors d'état de nuire les personnes que l'on a tuées au motif de l'autodéfense. C'est prévu dans le code pénal, hein. La défense, l'autodéfense policière est prévue, mais de manière restreinte, hein. Sauf s'il y a une disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace, c'est ça que dans le code pénal, mais là on passe à une licence donnée aux policiers pour se défendre, et vous avez vu comment ils ont revendiqué un armement, pouvant porter l'arme à domicile, hein, ce qui n'était pas le cas, ils peuvent amener l'arme à domicile, c'est pas ça. Enfin, c'est l'aggravation de l'assignation à résidence. Pour des personnes soupçonnées, je cite, soupçonnées d'avoir tenté de se rendre sur un théâtre d'opération de groupement terroriste. Bon. Mais contre lesquels il y a trop peu d'éléments pour ouvrir une information judiciaire. Il y a 8 jours, là, à Lyon, j'ai vu ça pas fait beaucoup d'état, 6 personnes étaient censées projeter de se rendre en Syrie. Elles ont été interpellées, c'était le 2 février. Et donc, ça a créé quand même 6 personnes arrêtées. Les avocats ont demandé quelle est la base matérielle pour apprécier le fait qu'elle allait partir en Syrie. Le procureur a dit, il ne s'agit que de soupçons initiaux qui doivent être corroborées. On attend que l'on corrobore les traces, les preuves, les éléments matériels prouvant qu'ils sont en Syrie. Alors moi je suis, enfin tout le monde ici doit être pour le fait qu'on empêche d'en aller en Syrie, ça c'est pas le sujet, mais dans ces, avec ces méthodes-là, on va aggraver le dispositif de la dissimulation, de la feinte de, enfin, pour partir en Syrie, sans qu'il y ait de véritables moyens de droit pour pouvoir appliquer l'assignation à résidence. L'assignation sera décidée uniquement par le ministère de l'Intérieur ou le préfet pour 8 heures à 24 heures. 8 heures à 24 heures, 3 pointages par semaine, en un mois, non renouvelable. La seule limite, c'est que c'est non renouvelable. Mais avec ça, vous perdez le boulot. Il y a déjà un tas de cas de gens qui ont perdu leur travail, se présentaient 3 fois, 4 fois au commissariat dans la journée, c'est contradictoire avec le travail. Ou alors c'est un travail, très élastique. Donc, ces mesures sont dangereuses et elles le sont en plus qu'elles donnent un avantage à l'administration. Je m'explique. J'ai déjà cité l'article 66 de la Constitution, qui dit que c'est le juge judiciaire qui est le gardien, je cite l'article, de la liberté individuelle et qui assure le respect de ce principe. Donc, ça, c'est la Constitution. Tout ce qui se passe là dans la réforme du code de procédure pénale, c'est de contourner le juge d'instruction. Sarkozy voulait le supprimer, souvenez-vous-en. Hollande le contourne, le juge. On ne le supprime pas, mais il n'aura plus le pouvoir d'agir dans ce domaine-là de la défense des libertés. Ils sont remplacés par les procureurs. Alors les procureurs... pour les perquisitions de nuit, pour les mises sur écoute, des enquêtes secrètes, sans avocat, sans contradictoire, hors de tout contrôle, c'est ça les procureurs. Ils dépendent du ministère de l'Intérieur. La France est en troisième ou quatrième condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme, au motif que ce ne sont pas des juges. Nous sommes le seul pays en Europe qui avons des magistrats qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Et le principe élémentaire... ça remontait à Montesquieu, c'est que la séparation des pouvoirs fait que le pouvoir judiciaire ne dépend pas du pouvoir exécutif. Or, chez nous, c'est le cas, avec les procureurs. Donc, faire passer le pouvoir des juges judiciaires aux procureurs, c'est là aussi rompre avec la tradition qui avait été constitutionnalisée, respectée par toutes les constitutions, y compris celle de 1958. En plus, je signale au passage que la France a 4 fois moins de procureurs que la moyenne des pays, des 28 pays de l'Union Européenne. 4 fois moins. On est un des pays qui avait le moins de procureurs ou d'équivalents des pays. Bon, ce qui signifie qu'ils se plaignent tous. Enfin, ils se plaignent tous de manière syndicale, mais on ne pourra pas faire le travail. On ne peut pas y arriver déjà. Avec les surcharges que ça signifie de responsabilité, on n'y arrivera pas. En plus, il y a un aspect quand même corporatif peut-être, mais qui est un aspect technique et professionnel. Donc, c'est le juge administratif qui va être chargé du contentieux de l'état d'urgence. C'est un des problèmes, pourquoi ? Aujourd'hui, ceux qui sont victimes des mesures injustes qui leur sont appliquées, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? On leur dit, allez voir le tribunal administratif. Le tribunal administratif, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il va vérifier que les règles fixées par la loi ou par un décret à l'administration, au préfet, pour aller très vite, sont respectées par le préfet. Le juge administratif n'est pas le juge de la liberté. C'est le juge civil. Donc, même s'ils ne sont pas en ils ont laissé filer, le Conseil d'État a rendu 2 décisions contraires, annulant des assignations à résidence, 2 sur un grand nombre, les juges administratifs ont validé, y compris des aberrations, quand il y a eu des perquisitions chez des agriculteurs dans l'Aquitaine au moment de la COP21. On applique quand même l'état d'urgence à des gens, on est allé les perquisitionner, ça n'avait rien à voir avec le terrorisme, ça fait rien, le premier traité de Bordeaux, on a dit non, c'est pas grave, parce qu'il a jugé que les mesures telles qu'elles sont prescrites pour qu'un préfet envoie des flics sur un site n'était pas détourné. Ça a été le cas aussi à Lille, encore plus extraordinaire. Un bar culturel, je ne sais pas quoi, enfin je ne le connais pas, mais un bar qui faisait des soirées, pas anarchiste, hein, a été fermé au motif que pour assurer l'ordre public dans ce bar, il fallait distraire des forces de police qu'on enlevait ainsi à la lutte contre le terrorisme. Je ne sais pas si vous me suivez, mais enfin quand même, ça devient. Et personne n'a dit, ah ben oui, le juge administratif a dit, ah ben oui, il n'y a pas assez de policiers, comme il n'y a pas assez de procureurs, donc c'est vrai que ça affaiblit les forces de police et qu'elles sont moins efficaces par rapport au terrorisme, donc on ferme le bar. C'est chez nous, c'était qu'à moi. Je ne sais pas, moi, ça me révolte, enfin bon, je crois que ça vous aussi, mais enfin bon, il faut quand même le voir, le dire, ce n'est pas des cas à part. Alors. Voilà la bascule. Et pour quel type de résultat? On a quand même 2 mois maintenant et demi d'application d'état d'urgence. On a eu 232 interpellations, 168 incarcérations, 60 contrôles judiciaires. D'accord? Résultat, 3 enquêtes préliminaires, 4 mises en examen. Et je continue, c'est un dato de 2 jours, le pôle antiterroriste de Paris n'a été saisi que de 5 enquêtes. Les 24 autres procédures ouvertes, sous la qualification de terroriste, hein, par les préfets, ou d'apologie du terrorisme, n'ont abouti à rien. 74% des procédures judiciaires ouvertes concernent des législations des armes, des stupéfiants. Alors bon, on a trouvé, on a des chiffres impressionnants, hein. Y compris des armes, 42 armes de guerre, 570 armes de poing, bon, mais qui servaient à un trafic de drogue, la criminalité que l'on connaît partout, pas qu'à Marseille. Bon. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le terrorisme, c'est tout. Donc ça a dopé les forces de police, ça les a réveillés peut-être, tant mieux, bon, ça l'ordre public, mais ça n'a pas à voir avec le terrorisme. Donc, tout ça en plus, dernier élément, enfin, j'ai d'autres chiffres, je ne vais pas vous accabler là-dessus, mais 285 assignations à résidence, toujours en vigueur, hein, c'est énorme, hein, avec 60 cas, pas des bavures, d'abus recensés par la commission parlementaire, seulement 12 ont été suspendus ou annulés. Bon, 46 abrogés par le ministère de l'Intérieur, parce qu'il y a eu des cas tellement énormes que le ministère de l'Intérieur lui-même a dit stop, là ça va pas, au préfet. Vous avez une inégalité territoriale, vous avez des préfets sur le territoire de Belfort et du Val-d'Oise, on le pompon. Pourtant, à côté, le département à côté, c'est les chiffres statistiques les moins importants. Donc ça dépend aussi de la caractérologie des préfets. Ce n'est pas des mécaniques les préfets. Il y en a qui sont. C'est pas injurieux de dire qu'il y en a qui sont excités sur l'ordre pas que public. Bon, donc ils appliquent ces mesures-là de manière fantaisiste. Vous n'avez pas une égalité territoriale d'application de ces mesures au niveau national. Ça dépend des départements et du préfet sur lequel vous tombez. Ben, et on peut continuer à dérouler comme ça le système. En même temps, toutes ces mesures-là, les 80% ont été appliquées avant le 15 décembre. Tous ces chiffres-là que je vous donne, les 80%, c'est avant le 15 décembre. Depuis, ça s'est éteint. Hein, le monde parle d'essoufflement de l'état d'urgence. Néanmoins, on l'a reconduit jusqu'au 28 mai. Pourquoi ? Alors qu'on a ces résultats. Bref, alors, bon, je m'arrête là, on va en débattre, mais si, ce tableau est quand même quelque chose qui, si vous êtes tout bout à bout, est probablement stupéfiant. Moi, je suis stupéfait, je ne pensais pas voir ça. Alors, en plus, bon, bref, d'un gouvernement de gauche, hein, ou ce qu'il en reste, vous dites, je ne sais pas comment il faut dire, mais c'est doublement stupéfiant. C'est révoltant. Alors, il y a quand même, je voulais évoquer, se met en place un dispositif de résistance, hein, c'est le terme, hein. Ce sont les deux rapports, les deux avis, qui sont des avis qui ont une valeur relative, mais enfin une certaine valeur juridico-administrative, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est présidée par Christine Lazer, une collègue d'ailleurs, qui était à Montpellier à l'époque, qui est une amie, mais enfin bref, c'est, qui est une instance, qui est une haute autorité administrative indépendante, et qui a donné deux avis sur le suivi de l'état d'urgence, avec un recensement de tout ce qui ne va pas, hein, par rapport à la sûreté des personnes et aux libertés individuelles, et qui a aussi donné un avis sur l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution, où l'avis proteste sur le fait qu'on va mettre au même niveau que la Déclaration des droits de 1789 l'état d'urgence qui est constitutionnalisé. Et ceci est appuyé sur, enfin ça n'a rien à voir même, ça va dans le même sens, par le rapport du 20 janvier du défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a fait un inventaire des dispositifs exorbitants, policiers massifs, dégradation matérielle à domicile, enfin bref, une liste impressionnante de tout ce qui a été des abus, qui ont été des abus de l'état d'urgence tel qu'il a été voté par le Parlement. Donc, constitutionnaliser tout cela, car le code de procédure pénale, bon, ça c'est le code, c'est la loi, mais l'état d'urgence, la nationalité, l'état d'urgence surtout, ça c'est d'être dans la Constitution, c'est inadmissible. Alors on peut espérer que tout ça revienne par partir d'un calcul politicien, hein, politicien, c'est un terme qui la parole, il y a des discours de Valls qui sont débilitants, sur il faut respecter la parole présidentielle le jour du Congrès à Versailles. Je rappelle quand même qu'il y a 5 ans, dans la révision de la Constitution voulue par Sarkozy, qui voulait absolument parler au Congrès, la gauche s'est dressée comme un seul homme et comme une seule femme contre ce droit, qui était sans précédent depuis Napoléon, hein, d'aller parler au Congrès, enfin parler aux chambres. Interdisait l'accès du président de la République aux chambres parce que de là, on pouvait avoir des abus de pouvoir ou de parole. Bon, la gauche ne voulait pas de ça. Mais là, Hollande a été un des premiers à appliquer cela, la mise en scène du Congrès. C'est là qu'il annonce ses mesures, enfin ses mesures vaguement d'ailleurs, parce que quand on les prend à la lettre, ça n'est pas forcément ce qui est annoncé. Mais depuis, il y a un fétichisme une fétichisation de la parole présidentielle. Il faut respecter la parole présidentielle. Le Premier ministre court après les députés dans les couloirs de l'Assemblée. Il y en a 86, je crois, qui ont sauvé l'honneur, qui ont refusé, qui ont voté non à ces mesures-là il y a quelques jours. Mais les députés socialistes sont pour chasser un téléphone. Certains sont punis, les secrétaires d'État ne le sont plus parce qu'ils voulaient un simple contrôle parlementaire de l'état d'urgence. C'est mon député, hein. Il s'appelle Denajal. Malheureux, il a été secrétaire d'État. Pam, je ne le saurai pas parce que tu as proposé, il a proposé le malheureux qu'il y a un amendement, hein, disant qu'il y aurait un contrôle parlementaire de l'application de l'état d'urgence. Pas à cause de ça, il n'est plus secrétaire d'État. Bon, on est dans un régime, une république bananière, hein, c'est invraisemblable. Sauf que là, ça touche à nos droits, à des droits fondamentaux. C'est pas des abus de droit tels qu'ils existent, avec des pratiques erratiques qu'on pourrait sanctionner aux élections présidentielles ou législatives. Ce sera le cas, j'en suis convaincu. Et ça ouvre la porte à du danger. Hein, c'est devenu, ce gouvernement est devenu un danger public. Avec et le gouvernement et le président de la République. Voilà.
Vous avez des questions dans la salle ?
Bonsoir. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé aux États-Unis ?
Alors,
le 11 septembre 2001, qui a été suivi par un changement de la Constitution, oui, avec le Patriot Act,
non, oui,
oui, qui a été voté il y a 3 semaines, un document d'à peu près 800 pages, 3 semaines après le 11 septembre. Personne ne pense que ce document ait été préparé après le 11 septembre.
Oui.
Il a été préparé avant. Est-ce qu'on n'est pas dans un scénario identique ?
Alors, oui et non. On a pu penser, après le 11 janvier de l'année dernière, Charlie Hebdo et l'hypercacher, que le gouvernement français ne tombait pas dans l'ornière du Patriot Act. Pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire que personne, il y a peu de questions posées, sauf des journalistes courageux, quelques-uns, sur l'efficacité de nos services de renseignement, intérieur et extérieur, depuis le mois de janvier 2015, sur la surveillance et le suivi des terroristes. On découvre qu'il y avait quand même une Française qui avait assisté ou qui avait été victime, pas mortellement, mais d'un attentat en Égypte, qui dit, mais moi, elle avait témoigné, déposé devant un officier de police, disant, mais on a parlé de Bataclan, le terme Bataclan a été prononcé. Ça fait un an et demi. On a des indications, il s'avère que non, le renseignement, je dis ça parce que c'est une grande différence avec ce qu'ont fait les Américains depuis, le renseignement français, il a été modifié 3 fois, c'est la guerre des polices, des services, c'est une passoire, l'affaire Mera en est déjà le premier signal, Toulouse, hein. Donc les policiers eux-mêmes, enfin les responsables, les cadres de ça, disent ça n'est pas possible de continuer comme ça. Bon. Et on s'est aperçu là combien les services étaient complètement surpris et débordés. Alors que, je ne dis pas qu'il faut qu'à chaque fois on nous dise « Oh, mais on en prévient 11 par mois d'attentats. » Les promesses sont en avant joyeux. C'est quels attentats qu'on a prévenus? Où? Il n'y a pas de liste. Il faut croire à l'histoire intérieure. Donc, c'est un premier élément par rapport à ce que vous dites sur le Patriot Act. Il y a eu, aux États-Unis, une réorganisation des services de renseignement avec des effets qui font que les écoutes mondialisées on fait ou WikiLeaks sont devenus un problème hein, aujourd'hui quand Apple ne veut pas qu'on puisse que la police ne puisse pas avoir accès au verrouillage des portables, c'est un effet de ça aussi hein. Les services de police sont devenus tellement intrusifs, mais il y a une dimension géostratégique, je ne sais pas comment dire, les États-Unis après le 11 septembre c'était loin du date d'opération. D'ailleurs, le symbole des attentats, des avions sur les Twin Towers, c'est comme si l'Angleterre, c'est une île, quoi. Pour les États-Unis, ils ont pu isoler leur territoire beaucoup plus que l'on ne peut le faire, surtout qu'en France, l'incurie des services que je dis est aggravée par l'incapacité totale de l'Union européenne d'assurer la moindre coordination des services de police, de police de renseignement. Donc, il y a des différences techniques à ce niveau-là. Mais vous avez raison, il y avait, alors sans tomber dans les théories de complot, il y avait des tentatives qui ont été amplifiées avec le Patriot Act sur l'aggravation de dispositions dont certaines étaient considérées comme dérogatoires et même contradictoires avec la Constitution, mais avec elles, il n'a pas été modifié. Hein. Le Patriot Act, c'est un bloc de mesures qui a été voté par le Congrès américain, mais qui n'ont pas été constitutionnalisées. C'est pas une petite différence. Deuxième élément très important pour la suite des opérations. Les États-Unis, ça va dans le sens de l'isolement que je viens d'évoquer, n'ont jamais signé les textes, les conventions sur le contrôle juridique concernant les droits de l'homme des cours américaines de justice. Américaines, c'est-à-dire Amérique du Sud, Amérique du Nord. Les Américains, il y a deux cours, enfin bref, je ne vais pas dans les détails. Nous aurons, enfin, ce qui va se passer, si tout ça aboutit, vous allez avoir une multiplicité et une multiplication de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, au moins, dans le sens de l'ONU, que la France a signé, ratifié, et ces textes, ces conventions s'imposent à elle. C'est-à-dire que ces mesures-là, il y a déjà des notes, hein, elles n'ont pas de valeur juridique, mais enfin, il y a déjà des rapports de juristes de la Cour européenne des droits de l'homme, y compris de la direction juridique de la Commission de Bruxelles, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour ça, mais enfin bref, sur le fait que beaucoup de mesures telles qu'elles sont aujourd'hui, inscrites dans les projets de loi ou de révision de la Constitution, seront contradictoires avec des textes de convention que la France a signés. La France se fera condamner par des requérants XYZ sur ces sujets-là, ce qui n'est pas possible aux États-Unis. Parce que le tact est devenu, regardez Guantanamo, Obama qui avait fait de ça, fait campagne hein, il y a 8 ans pour le fermer, il n'y arrive pas, il reprend dans le sujet pour absolument fermer, enfin, Cuba, tout ça, mais ça faisait partie d'un dispositif qui était très insulaire, particulièrement aux États-Unis. Là, nous n'avons pas les moyens ni organiques, organisationnels, étatiques, disons, l'Union européenne et juridiques pour fermer, alors, je ne parlais même pas les frontières, pour fermer notre système juridique sur lui-même. heureusement. Hein. Mais c'est la différence importante, je crois, avec Patriot Act. Qui rend plutôt optimiste enfin, pour la suite. Optimiste avec les recours que ça va vouloir dire. La France va être pilonnée, France pays droit de l'homme, etc. Et pays droit de l'homme, pourquoi ? Pas parce qu'on a fait la révolution française, mais parce qu'on avait un état du droit, droit du sol, etc., qui résistait à toutes les fantaisies politiques, à tous les arrangements politiques successifs qui variaient sur les majorités, si vous voulez. On avait un socle qui était à la fois historique, symbolique, la Révolution française, la déclaration des droits, mais on avait aussi un état du droit qui faisait que tout ça pouvait résister à l'adversité. Hein, et quand même, le vieux débat qui n'est pas que récent, hein, sur comment on se défend le mieux contre un agresseur, contre le terrorisme, c'est pas en limitant la liberté, c'est pour ça qu'en les organisant un peu mieux, en les adaptant, en les modernisant. On fait le contraire, là. Là, on est en train de servir les plats tout chaud à Daesh, là. C'est vrai, c'est leur servir, ce qui, entre autres choses, ce qu'ils cherchaient. Si vous ajoutez à ça les suspicions qui ont largement commencé, pas que pour les services de police, hein, sur tout ce qui est musulman et potentiellement terroriste, vous avez là alors le cadeau le plus formidable que puisse faire Daesh. Daesh s'attaque à la France, pourquoi ? Parce que, pas parce qu'on fait la guerre, enfin, oui, mais enfin, il y a une vingtaine d'États impliqués, peu ou prou, la France fait 1,2% des bombardements actuellement sur Daesh. Bon, 1,2%. Bon. C'est pas parce qu'on bombarde Daesh qu'on a été attaqué. Ils ont attaqué parce qu'on se connaît, ce qu'est la France symboliquement, et parce que nous avons 4 millions, la plus grosse communauté musulmane d'Europe en France. Et qu'ils cherchent à opposer les musulmans avec le reste des citoyens. Et qu'est-ce que c'est d'autre ça que de faciliter les antagonismes et les divisions, les distinctions entre citoyens. C'est le droit le prescrit désormais. On n'aura plus qu'à greffer un discours idéologique là-dessus. Vous prenez l'embarras du choix, là. Hein. Les éditorialistes télévisuels, etc., qui pourront développer leur fantasme sur l'islam comme danger en soi, comme religion dangereuse et non nationale.
Oui, bonsoir. C'est affolant ce que vous nous racontez parce que ça veut dire que, sauf à remettre en cause la parole du Premier ministre qui nous dit que depuis le 23 novembre, il y a 50 attentats qui ont été déjoués, à savoir peut-être 500 morts si on regarde ce qui s'est passé. A priori, ce qu'on entend à la télévision, il a fait un peu l'avocat du diable, ça paraît justifié. La police est toujours plein des difficultés, qu'elle n'avait pas les moyens, qu'elle avait les pieds et les mains liés par toutes les procédures judiciaires, et qu'il lui fallait absolument tous ces moyens-là pour pouvoir déjouer les attentats. Donc ça me paraît justifié qu'au moins pendant une période donnée, on essaye d'avoir effectivement des résultats là-dessus. Juste pour dire une chose, parce que vous parlez de guerre d'Algérie tout à l'heure, et que c'était justifié par la guerre d'Algérie, mais à l'époque, à ce moment-là, c'était pas la guerre d'Algérie, c'était aussi des terroristes. La guerre d'Algérie n'est arrivée qu'à la fin, parce qu'elle a été perdue. Mais au départ, c'était bien des terroristes aussi. On est bien d'accord.
Les terroristes, c'est considérable. Les résistants en 1940-1944 étaient terroristes.
Exactement, hein, donc le terme
était terroriste, était classique.
On est d'accord. Donc, ce qui est affolant quand même, c'est que on a quand même affaire aussi à des députés qui ont voté quand même une loi là, est-ce qu'ils sont sourds? Non. Il reste que quelque part. Je trouve que vous remettez, enfin, vous êtes en train de nous dire, ils nous mentent, quoi.
Ah oui, oui, enfin ils nous mentent, je ne sais pas si c'est le premier argument que je prends, je dis c'est un ensemble qui a sa cohérence, qui est d'autant plus grave qu'elle atteint des fondamentaux de droit. Ce que vous dites sur les policiers qui sont entravés, ça c'est le discours éternel. Moi je considère, on a maintenant assez d'analyse fouillée. Hein. Le monde fait 4 pages sur comment sont passés, organisés les terroristes pour le Bataclan par exemple, bon, ou le Stade de France. On découvre dans ce chemin faisant les lacunes béantes des services de renseignement. Je l'évoquais tout à l'heure, j'y reviens. Donc ça, c'est pas les juges qui empêchaient le parquet antiterroriste de travailler. concrètement, c'est le fait qu'on a quand même divisé, on a réorganisé pendant deux fois pendant les 12 dernières années le SDES, les services intérieurs et les services extérieurs, et qu'on a désorganisé les services. Alors, ça n'a rien à voir avec le droit tel qu'il est. Que l'on organise du droit en fonction de ce que serait la lutte contre le terrorisme et les objectifs qu'ils recherchent. Si on parle des terroristes algériens, comme d'ailleurs l'était l'OAS aussi, hein, le terrorisme, c'est dès que vous sortez d'un cadre légal et que vous utilisez la guerre de guérilla, enfin, les résistants étaient connus comme des terroristes, hein, en 1944. Bon. Donc, si vous avez poursuivi un objectif qui est de réduire, le danger, il n'est pas que militaire. Il n'est pas comme l'État. Ce que vient de dire de Daesh qui vise à créer des désordres en France ou en Europe, hein, c'est pas fini. C'est pas parce qu'ils vont bombarder ou ils vont faire des attentats tous les 15 jours. C'est parce qu'ils essaient de créer un état de division dans la communauté nationale. Ça, c'est le seul. Si pour prendre, alors moi je ne suis pas un islamiste, pas un islamiste. Un chercheur spécialisé dans l'islam, mais prenez les nombreux maintenant experts que l'on a, qui sont de vrais experts, des chercheurs du CNRS ou de l'université, qui ont travaillé depuis des années et des années, qu'on n'écoutait d'ailleurs pas sur ces questions-là, et qui analysent ce qu'est aujourd'hui la radicalisation islamiste, l'islamisme radical, etc., etc. Vous avez des analyses politiques qui font que la dimension armée, et seconde par rapport à comment une société, pas qu'un État, une société s'arme elle-même contre les défis qu'on lui lance. Et le défi qu'on lui lance là, il veut atteindre l'État de droit et les libertés que nous avons. C'est le débat sur le Patriot Act, ça a été déjà le débat aux États-Unis beaucoup, sur le Patriot Act, où il a fallu que Bush, enfin, mente, oui, mais Bush a menti sur l'Irak, c'est devenu une banalité aujourd'hui, sur le fait qu'il avait l'arme nucléaire, enfin que... Comment ?
Tony Blair, Colin Powell.
Et Tony Blair, oui, mais ça, Tony Blair est aussi... Donc, les mensonges d'État, dans ces cas-là, sont faits pour mieux masquer l'incurie de l'État par rapport à la sûreté des personnes. Mais ce que je soutiens là, c'est que moi je m'en tiens à ce qui est, quand on lit, pas seulement en tant que juriste, mais que vous lisez ce qui est en train de se faire sur le droit, alors à droit constant, à droit tel qu'il existe, et ce que ça va modifier, on touche au principe, hein, qui ont deux siècles d'histoire, le droit ça produit des effets, c'est pas une technologie. Hein. Quand vous avez ces effets-là, qui atteignent y compris la vie privée des personnes, des citoyens français, pas de Daesh, on passe à côté de la cible, où vous avez vu que ces mesures vont faire rapport à Daesh. Mais j'étais assez précis, dites-moi laquelle va intimider un terroriste? Dites-moi laquelle? Pas une. Et en quoi ça va aider, je vous répète qu'encore une fois, les
tactiques de l'ONU. La déchéance de nationalité, ça va faire une personne. Mais libérer, par exemple, les écoutes téléphoniques, c'est certainement.
Ah, mais ça, si vous considérez qu'on doit pouvoir donner,
non, y non, compris ce soir. Pas, je fais l'avocat du diable.
Ah, ben d'accord, mais c'est pour répondre pas comme le bon Dieu.
Je suis affolé par le fait que vous nous dites, mais ils sont tous fous là-haut, quoi. C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire.
Écoutez, moi là-haut, c'est pas là-haut.
Les grands de ce monde, ceux qui nous disent,
non,
ceux
pas...
qui gouvernent, quand je vois que la majorité vote une loi.
C'est le législateur et le gouvernement. Raisonnons en termes précis, on n'est pas dans un. Moi, je suis absolument pas. Je me défie autant que je peux et je combat toutes les théories du complot possible. Donc, je n'ai pas le temps de vous dire, ils nous mentent parce qu'ils sont agis par je ne sais quel trilatéral. Non, on discute des législateurs, que vous n'ayez que 6 députés, 6 sur 666, 6 députés, qui, alors maintenant, ils sont devenus 83, enfin, ça monte, bon. Mmh. Mais sur le coup de l'émotion, moi je peux comprendre l'émotion de nous ici, de ceux d'en haut, mais un député... En principe, c'est le législateur. Il doit connaître cet état du droit. Il ne doit pas se laisser embarquer par n'importe quel discours, fût-ce François Hollande, qui n'était quand même pas... C'est pas Malraux au Panthéon, hein. François Hollande à Versailles, a fait lever tout le monde, etc. Bon, d'accord, que la nation se rassemble. Mais de là à dire qu'il faut reprendre des revendications de l'extrême droite, la déchéance de nationalité, pour faire l'unité nationale, c'est tout faux. Je ne dis pas qu'il nous mente, je dis c'est tout faux. Et je dis c'est tout faux et c'est dangereux. Et dangereux, c'est ce que je vais vous dire ce soir, c'est un vrai danger, c'est pas pour vous affoler, c'est un vrai danger. Et il y a aujourd'hui, alors c'était pas vrai le 15 novembre, il y a aujourd'hui tout un archipel d'organismes syndicaux de magistrats, je l'évoquais, d'institutions. La commission des droits de l'homme, c'est pas les droits de l'homme. C'est officiel, c'est des jurys, ce sont des gens qui sont pas de gauche ou de droite, ce sont des jurys qui disent stop. Et qui disent d'ailleurs, il y a des Américains, prenez la presse américaine la semaine dernière, qui disent que les Français deviennent fous. Parce que chez eux, ils ont eu quand même 10 ans de débat sur le Patriot Act, ça n'a pas été une affaire simple. Et là, ils disent, alors qu'il y a eu cet épisode, le Patriot Act aux États-Unis, on aurait été les premiers qui voulaient attaquer. Enfin, les Espagnols ont été attaqués, les Anglais aussi. Enfin, il n'y a pas que les terroristes en France, les attentats qu'il y a eu à Madrid, qu'il y a eu à Londres, etc., qui ont fait le même traumatisme à la population. On ne va pas compter les chiffres à 10 près. C'est des assassinats de masse, des crimes de masse. Comment on répond à un crime de masse? Pas par là. Là, on est en train de fragiliser la société qui est d'autant plus forte qu'elle est confiante dans ses institutions et dans son droit. Ça, c'est un point de vue, si vous voulez, qui est l'Europe des Lumières. Hein. C'est celui qui a fait écrire des constitutions à nos ancêtres pères fondateurs en 89. 89, 93, on peut continuer la suite. Ils n'ont jamais atteint ces fondamentaux-là. Donc, moi, je ne peux ni vous affoler, ni dire qu'ils nous mentent, ni... il y a un complot, mais il y a un État, aujourd'hui, une glissade du pouvoir, qui est alors aggravée, je ne vais pas faire mon... En fait, la Cinquième République est quand même un État qui encourage ce genre de glissade. Quand on voit, c'est ridicule et pathétique, mais quand on voit le Premier ministre courir les couloirs, aller à la buvette du Palais Bourbon, pour intimider, il n'y a pas d'autre terme, faire des pressions avec des propos, en plus, ça veut péter les plombs, ça fait des propos de grossièreté, injurieux sur des députés pour dire si tu votes pas pour, tu auras plus ta, des machins devant des journalistes. Non, je crois que le pouvoir tel qu'il est là, c'est le Premier ministre et le Président de la République, ont une démarche, une stratégie qui m'échappe, en tout cas contre laquelle je suis radicalement contre.
Monsieur le professeur, vous avez l'air de nous dire qu'il ne faut pas trop toucher la Constitution. Mais on a
des... Ah si, il faut la changer.
Mais justement, c'est la question que je voulais vous poser, à partir de quel moment, parce que puisque vous êtes le président de la Convention de la 6e République, à partir de quel moment faut-il justement toucher la Constitution?
Alors,
En deux mots.
Écoutez, alors, bonne question, parce que je vous ai dit, on ne touche pas la Constitution dans ces conditions. Mais sur quoi? Sur des principes fondamentaux. Je vais citer deux articles dans la Constitution qui sont mis en cause. L'article 1, sur l'égalité absolue des citoyens français entre eux, qui est remis en cause par la question de la déchéance. Et l'article 66, qui fait que le juge judiciaire soit le juge des libertés et de la sûreté des personnes. Dans les deux articles qui sont indirectement, c'est là où c'est un peu hypocrite, on pourrait dire, attaqué par ce dispositif s'il arrive à terme, hein, parce que bon, ce qu'il arrivera à faire le Congrès, je n'en suis pas certain, mais enfin bref, pour l'instant c'est ça qui est en cause. Donc dans ces cas-là, ce sont les principes fondamentaux. La Constitution telle qu'elle est, c'est l'organisation, le déséquilibre des pouvoirs qui la caractérise, qui fait que nous avons un régime présidentialiste. Alors, le pire de tous, autrement dit, c'est pas le régime présidentialisme, c'est pas les États-Unis. Vous avez un tel équilibre des pouvoirs avec en plus le fédéralisme, les États membres de la fédération, que le président, on l'a vu avec Obama, quelle que soit cette administration internationale, est souvent paralysé. Pour faire passer son texte sur la santé, il a fallu 4 ans. Bon. Donc vous avez un équilibre des pouvoirs, pour le meilleur et pour le pire, que nous n'avons pas en France, où tout remonte. Taubira avait dit ce truc qui était intéressant. La parole présidentielle est première, la parole présidentielle est dernière. Et j'avais envie de faire un blanc parce qu'on s'est moqué d'elle, et, sauf qu'elle disait le roi est nu. Oui, le roi annonce que même Valls, sauf qu'elle était à Alger quand elle annonce ça, qu'il n'y aura pas d'échéance de nationalité. Valls la veille avait dit la même chose, mais pas le mercredi matin au conseil des ministres, car quand même on a un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, sinon il n'y en a pas de conseil des ministres, de gouvernement, hein, ça ne réunit pas, hein. Donc c'est des choses qui sont en Afrique, les anthropologues prendraient ça pour des aberrations monstrueuses. Là il est présent à la République tout seul, même le premier ministre n'était pas au courant, annonce, ah ben, ça va rester. Ah, à partir de là, la parole est première et la dernière. Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Ben voilà, Taubira est resté 15 jours, puis elle est partie. Donc, on a un système qui est ça qu'il faut changer. C'est ça qu'il faut changer. C'est les principes fondamentaux. J'ai fait un papier dans Mediapart hier sur le droit du travail. Parce que c'est un joli sujet, ça aussi. Un joli sujet. On ne va pas le prendre maintenant.
Si, on va le mener prochainement.
Ah, bien sûr, le travail. Vous avez des principes fondamentaux qui, grâce à Badinter, qui a inventé 60 mesures, sont complètement changées. Ce n'est pas un droit constant. Vous avez les personnes qui disparaissent, vous avez les comités d'hygiène et sécurité qui disparaissent, vous avez. Enfin, qui disparaissent, mais le terme de salarié disparaît et c'est le citoyen, c'est la formule, qui est une formule, il n'y a plus de salariés en France. C'est l'homme. Alors, donc, vous avez des changements qui vont appeler d'ailleurs une réécriture du préambule de la Constitution. Le préambule de la Constitution, comme on l'a fait en 1946, ça a été repris aussi en 1958, c'est les principes généraux du droit. Les fondements de la Constitution. Et il y aurait largement matière, sur le droit du travail par exemple, à écrire, parce qu'il n'y a pas grand-chose, à écrire, par rapport à ce qui est devenu le travail, précaire, etc., de nouveaux principes comme on dit dans le préambule de la Constitution. Mais ça fait un tel chantier que c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut une 6ème République et qu'on ne va pas pouvoir bricoler, surtout quand on voit ce bricolage-là, qui est à front renversé, hein, qui nous fait régresser. Je ne vois pas comment on va pouvoir attraper ces petites choses en faisant du sparadrap sur tel article, tel chapitre. C'est la raison pour laquelle, mais je ne vais pas en parler là, je pense qu'il vaudrait mieux changer de constitution et en écrire une autre, de manière délibérée, démocratique, contradictoire, etc., plutôt que de faire des rustines sur un texte qui est devenu incohérent, exotique et anachronique. Vous avez faim.
J'ai juste une petite question sur qu'est-ce que vous pensez de la binationalité. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est...
Oui.
Moi, personnellement, je suis néophyte là-dedans, mais je trouve ça aberrant aussi. Je veux dire.
Alors, il y a deux écoles.
Certains auraient deux ou trois nationalités.
Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Il y a l'école qui consiste à dire. Attendez. Soyons concrets.
La République française. Moi, je prends un exemple niçois que j'aime beaucoup, c'est Garibaldi.
Oui.
Garibaldi est un héros, ouais. Non seulement pour l'Italie, mais pour beaucoup de pays d'Amérique du Sud, mais c'est aussi un héros français. Ouais. Et il a été député de la France, et pourtant il était tout aussi italien. Ouais. Personne ne remet en cause ce grand héros donc multinational qu'est Garibaldi. Mais ça a toujours existé, le fait qu'on puisse. Et d'ailleurs, au 19e siècle, les humanistes le disaient. Tous les républicains, entre guillemets, avaient deux nations, la leur et la France.
Oui, parce que la France était... Ce qui a changé, c'était à la fin du 19e siècle.
Ça n'explique pas la question que je pose.
Attendez, je vous réponds.
Il y a des inégalités partout, demain, on va
vous avoir deux
nationalités.
Vous avez deux écoles. Vous avez deux écoles. Une école consiste à dire, parce que c'est un régime qui est mondial, hein. Il ne faut pas croire que nous sommes généreux plus qu'ailleurs, c'est plutôt même le contraire.
Il n'y a aucun pays qui la refuse.
Comment ?
Il y a des pays qui refusent la binationalité.
Il y a des pays qui refusent, oui. Vous avez beaucoup de majorité, je ne peux pas vous dire le chiffre, mais d'États qui acceptent, parce que c'est la vie des gens qui rarement, surtout par le temps qui court la mondialisation, qui est rarement fixée sur un seul territoire. Bon, même en Europe. Donc vous avez des gens qui se marient, qui naissent ailleurs, etc., qui créent des situations de droit civil, pas politique, qui font que la double nationalité est un avantage et qui en plus, moi c'est ma conception, permet de meilleure intégration. Le débat sur la loi Guigou à l'époque, souvenez-vous-en peut-être, Loi Pasqua avait exigé qu'il y ait une déclaration solennelle avant 18 ans des jeunes qui étaient en France, de leurs parents étaient en France, étaient nés en France, mais il fallait en plus qu'ils se disent français solennellement devant un commissaire de police. Bon. C'est ce qui avait enlevé la loi.
Il fallait faire un service militaire pour être français.
Comment ?
À une époque, il fallait faire un service militaire. Enfin, moi, je ne sais pas, mais j'ai de la famille espagnole pour devenir français. On leur a dit, faites le service militaire, sinon on ne sera pas français.
Bon, non, mais...
Pour les hommes, c'était ça.
Le seul aménagement qui est discuté, techniquement, c'est pas le principe. Le principe n'est pas... ça a remonté à Garibaldi, mais le principe, il est plutôt... Pas qu'il soit libéral, mais il est plutôt intégratif et économiquement performant. parce que les diasporas qui amènent beaucoup d'argent, elles sont souvent à base de binationaux, y compris les Africains, hein, pour les Français. Ça répond à l'histoire du colonialisme, ça aussi. On ne peut pas faire le solde de sang en disant, ah ben, les Anglais, ils ont beaucoup de binationaux, les Anglais. Parce que c'est le Commonwealth, etc., qui sont aussi anglais. Vous avez le débat aujourd'hui, juridico-politique qui court, sur le fait qu'on ne devrait... Enfin, on devrait aller vers un statut de binational avec des conventions entre États. C'est-à-dire, on ne pourrait pas avoir un binational dans l'État qui ne reconnaîtrait pas lui-même la binationalité. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, si vous avez quelqu'un qui naît en France, moi j'ai étudiant, il y a eu qui est syrien, il est devenu bibliothécaire, mais enfin il est là depuis 5 ans, il est parvenu chez lui, il a fait 2 enfants en France, il n'a pas en français. Lui il est syrien, il se bat, et sa femme aussi, et il se bat pour avoir l'achat. Ça fait 1 an et demi que ça dure, il n'a pas encore. Donc vous avez des situations de pérégrination individuelle, de parcours qui font que la double nationalité est un avantage. Si vous la contingentez, il faut penser à ce genre, moi c'est pas ma position, mais de conventions bilatérales qui feraient que vous ne pourriez pas être je vais prendre un exemple parce que je ne connais pas assez en détail, mais enfin à la fois marocain et français, si le Maroc ne reconnaissait pas aussi le droit pour des Français d'être marocains. Bon, mais ça ne changerait pas grand chose.
Déjà, on ne posera pas le problème de la déchéance des binationaux uniquement, quoi.
L'argument
de binationaux.
Oui.
Et pas binationaux.
Mais non, mais c'est aberrant. Mais surtout que ça veut dire quoi? Avec le fait que maintenant ce sera pour tous. Vous allez pouvoir expulser un Français. Enfin expulser. Non, pas l'expulser. Le remettre à un État étranger, s'il est binational, alors qu'il est aussi français. Qu'est-ce qui va faire que vous allez le distinguer, sinon par des études génétiques, racialistes et le reste, c'est qu'il est vraiment marocain et plus marocain que français. Si vous avez un binational, il sera vous l'expulsera en tant que français autant qu'en tant que marocain. Mais vous allez envoyer le français chez au Maroc. C'est aberrant, ça ne tient pas 30 secondes le système.
Une dernière question.
Bonsoir. En fait, ce n'est même pas une question, c'est un petit commentaire. Sur à la fois cette agitation autour de la déchéance et de l'état d'urgence. Et j'ai l'impression que tout ça, c'est la plus belle propagande pour Daesh en termes de recrutement, puisque c'est la conséquence. Eux, ils considèrent que pour les musulmans, il ne faut pas vivre en termes avec les mécréants, etc. Et donc, quelque part, cette situation leur donne raison dans la mesure où, effectivement, il y a une situation d'apartheid qui se crée en plus on constitutionnalise la chose, il y a la question de l'apparence, du comportement comme vous l'avez si bien précisé qui fait qu'on est en train de non pas de lutter contre Daesh mais on est en train de le renforcer son recrutement. Voilà.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est ça qui est terrible, c'est ça qui me rend nerveux si vous voulez, c'est que par rapport aux objectifs poursuivis c'est totalement inefficace. Totalement efficace, sauf pour, de manière aléatoire, hein, mais enfin, pour, vous voyez l'usage qui est fait, déjà en dehors des attentats, en dehors de l'objectif précis que l'on poursuit là, sur les discours anti-musulmans, anti-arabes, hein, on a marre du choix, c'est un déluge, c'est devenu majoritaire dans les télés, dans les expressions médiatiques. Vous donnez là un socle matériel, administratif, juridique, à un discours politique, symbolique, etc., qui est un discours de stigmatisation. Et encore une fois, le rêve de Daesh, c'est que les 4 millions de musulmans français, dont les 98% sont... Alors il y a des salafis, il y a un tas de comme pour les chrétiens, hein, il y a un tas de filiales dispersées, ne sont absolument en aucun cas un danger terroriste. Alors, on les soupçonne de pouvoir l'être. Quand vous avez les bavures que l'on recense là, pourquoi est-ce tombé sur eux? Le restaurant, ça a été un des premiers dans la banlieue parisienne, où les flics ont débarqué un soir, une pizzeria, ils ont enfoncé la porte des chiottes, etc. Oui. Ils faisaient des massins cachés, enfin pas cachés.
Halal.
Bon, bon, ça pourrait être pareil, mais comme par hasard, c'était. Et ce type avait une pizzeria qui marchait très bien. Il y avait un lieu de prière pour ses ouvriers qui étaient croyants. Et tout ça a été, on a fracturé la porte qui était tout.
Il aura dit, je vais vous ouvrir les portes.
Non, ouais. C'est du délire. Et vous avez tout à fait raison, c'est donner du grain à moudre à Daesh. C'est radicaliser les gens qui ne le sont pas. C'est rendre impensable le fait qu'on puisse pratiquer des religions dans le respect de la laïcité telle qu'elle a été définie en 1905 est un atout, ça aussi. C'est un gros sujet, ça, mais bon, c'est pas le moindre sujet.
Je dois malheureusement rendre la salle. Pour ceux et celles qui souhaitent pour connaître les prochaines conférences débats, je vous invite à vous laisser votre adresse email. Et pour celles et ceux qui veulent nous accompagner, on va dîner avec M. Paul Alliès au restaurant. Ben je vous invite à rester après nous, si vous le souhaitez. Voilà.
Merci, professeur.
Merci beaucoup.
On est au paradis,
beaucoup,
professeur.
Merci beaucoup, M. Paul Alliès, pour cette conférence débat qui m'a permis de...
Merci. Merci.